Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
La deuxième partie d'Europe Soir, dans laquelle nous allons plus loin, l'avis de nos experts sur l'actualité ce soir. Louis Osalter, journaliste à Marianne, bonsoir.
Bonsoir Raphaël.
La communicante Émilie Zapalski, bonsoir.
Bonsoir Raphaël.
Et l'universitaire maître de conférence à Paris 2, Benjamin Morel, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, nous ne voulions pas trop entrer dans les détails du plan de sobriété annoncé par le gouvernement tout à l'heure, parce qu'Europe 1 vous l'a tout simplement dévoilé hier en avant-première. Vous pouvez le consulter en détail sur l'application et sur notre site europe1.fr. Ce qui nous intéresse ce soir avant tout, c'est l'esprit du plan de sobriété. L'exécutif, il va prudemment, ne contraint pas à baisser le chauffage pour les particuliers, à mettre tous les salariés en télétravail pour les entreprises. Il n'infantilise pas. Il y a comme une intention, Émilie Zapalski, de ne pas refaire le coup du Covid, où certains Français avaient eu l'impression d'être un peu pris pour des enfants. Hein. On va relâcher la bride. Jean Castex, ça me revient, cette phrase du Premier ministre de l'époque, les fameuses attestations pendant le premier confinement.
Oui, alors d'accord, il n'y a pas de c'est pas contraignant, c'est-à-dire qu'on n'a pas cette fois-ci l'attestation, j'ai bien mon chauffage à 19 et pas au-dessus.
Et pourtant, on est dans une crise énergétique mondiale, et
oui.
Grave.
Mais si vous regardez la communication, bah, c'est calqué par rapport au Covid. Hein. Je regardais la publicité sur les gestes. C'est exactement ce qu'avait fait Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Enfin, la campagne de publicité où on le voyait aérer la pièce, laver vos mains, télécharger l'application Tous Anti-Covid. On est sur exactement la même modalité de communication. C'est-à-dire, on infantilise. Alors, pas vraiment, mais on vous dit exactement comment faire.
Ils y vont prudemment, vous voyez, c'est ce qui m'a frappé. Moi.
Prudemment, dans le sens où c'est pas contraignant,
voilà,
où il
n'y
a pas
voilà.
Ouais. C'est pas coercitif. Ça, c'est vrai, ni pour les particuliers, ni pour les entreprises, ni pour les collectivités. Il y a une incitation un peu plus forte pour les collectivités et les entreprises, des engagements, mais il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de contrainte, il n'y aura pas de brigade du chauffage. Mais je trouve que c'est quand même, même si j'utiliserai pas vraiment infantilisant, mais moi j'ai l'impression quand même que la population en est déjà un peu à la... Au-delà de ça, ne serait-ce que par le coût que ça représente, les Français font des économies d'énergie, je pense, depuis un moment, dans le sens où ils payent la facture au bout du bout, et là d'autant plus. Et moi, ce que j'ai regretté dans cette communication, c'est que c'est des choses de bon sens, c'est bien. Je ne sais pas ce que ça aura comme impact. Moi, je pense que le signal prix est plus important. Mais surtout, on n'a pas eu du tout de notion de moyen ou long terme. Alors, je m'explique là-dessus. C'est en effet des mesures d'urgence. C'est la sobriété. C'est ce que ne voulait pas d'ailleurs Emmanuel Macron encore il y a quelques temps parce qu'il parlait des Amish. Donc, on a progressé dans l'esprit de.
Ça
il faut faire.
Bah, c'était ouais. Bien avant la guerre.
Oui,
en
mais
ah,
c'était. Oui. Bah, c'est la crise énergétique et c'est l'été caniculaire qui a changé un petit peu l'esprit de notre président quinquennat 2. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vu comme quelque chose de. Contraignant, pas contraignant dans le sens que vous disiez, mais contraignant dans le sens, oh, c'est l'horreur, on va vers la sobriété, on va en effet vivre comme des Amish ou quoi. Moi, il me semble que la sobriété et la transition écologique plus globalement, ça peut être un projet, pas positif, mais un projet, c'est-à-dire une ambition. Et je trouve que là, il n'y a eu aucun signal. Alors Agnès Pannier-Runacher a essayé de dire... C'est aussi, c'est pas que 2022, 2023, c'est aussi au-delà. Mais il n'y a pas eu de trace d'investissement de comment on transforme les collectivités, les particuliers, les logements, les entreprises, pour qu'elles aient des modes de production plus vertueux, pour que les chauffages, les bâtiments ou les logements ne soient pas des passoires thermiques. Et j'ai l'impression que ça manque un peu parce que c'est en effet que on va faire ça pour passer les hivers difficiles, et puis après, basta, on n'a pas besoin de faire trop d'efforts. Il me semble qu'il y a eu un petit peu ce manque de communication sur cet aspect-là.
Benjamin Morel.
Oui, je rejoins en grande partie ce qui a été dit. Alors, avec quand même quelques divergences, c'est-à-dire que moi, ce qui me choque dans cette affaire, c'est le vocable même de sobriété. Parce qu'en réalité, demain, si nous voulons arriver justement à la fois à avoir une capacité productive sur ce territoire beaucoup plus importante et de l'autre côté, à faire des économies mondiales au niveau du CO2, il va falloir reproduire en France. Il va falloir produire de l'énergie en France, il va falloir également produire des biens en France. Il va falloir réindustrialiser, parce qu'en réalité, dire « attention, nous sommes un pays vertueux, nous émettons assez peu de CO2 », c'est un mensonge, c'est une grande hypocrisie tout bêtement, parce que le CO2 des biens de consommation qu'on produit ici, qu'on consomme ici, il est produit en Chine. Et donc, si vous voulez avoir une vraie transition énergétique, et là, je rejoins Émilie, il vous faut reproduire sur le sol national. Et qui dit plus de production implique plus d'énergie, de l'énergie propre, une vraie réflexion sur comment, demain, est-ce que l'on va avoir un mix énergétique qui permettra... Prenez les scénarios RTE, hein, vous savez, les scénarios qui ont été évoqués et construits par le réseau RTE, il y en a trois, et...
aujourd'hui. Si on ne fait rien, si on développe les énergies renouvelables, si on mise tout sur le nucléaire.
Mais ce qui est grosso modo. Mais ce qui est plus important au-delà du mix énergétique, etc., en tout cas, ce qui est aussi important, c'est que ces scénarios prévoient une hausse de la consommation d'énergie. Parce que si vous voulez réindustrialiser, si vous voulez avoir un rapport qui soit un rapport demain sensé à l'écologie, vous avez besoin non pas de produire moins d'énergie, mais plus d'énergie. Or, au-delà du fait de passer l'hiver, aujourd'hui, il faut passer l'hiver, et pour passer l'hiver, il faut en effet, à court terme, consommer moins. Il y a deux débats qu'on doit avoir. Le premier débat, c'est comment sommes-nous arrivés là? Et là, le petit geste est une façon, en fait, de dédouaner les errements de la politique passée, notamment en matière énergétique. Grosso modo, ne vous inquiétez pas, la situation est extérieure en nous, nous ne l'avons pas voulu. C'est la faute à Poutine, c'est vrai. C'est la faute aux difficultés en Ukraine, c'est vrai. Mais c'est aussi également la faute d'années et d'années d'errements en matière de politique énergétique. Premier débat. Deuxième débat, comment se fait-il aujourd'hui que, en effet, je rejoins Émilie, on n'ait pas une vraie réflexion, non pas sur la sobriété énergétique, mais sur la transition écologique, ce qui m'apparaît beaucoup plus profond et beaucoup plus important.
On va poursuivre notre conversation dans quelques instants avec Louis Osalter, qu'on n'a pas encore entendu, Benjamin Morel et Émilie Zapalski. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
De retour sur Europe 1 avec Louis Osalter, Émilie Zapalski et Benjamin Morel. Nous parlons du plan de sobriété énergétique dévoilé tout à l'heure par le gouvernement et la première ministre Elisabeth Borne. Il y a un aspect purement communicationnel que je voulais évoquer, ce slogan « je baisse, j'éteins, je décale, je baisse le chauffage, j'éteins ma Wi-Fi, je décale mes horaires de machine à laver ». Je voulais vous demander votre avis, et avant, je voulais qu'on se replonge dans le passé, dans les années 70, la France subissait alors deux chocs pétroliers et déjà un appel à la sobriété des autorités publiques avec une campagne de communication.
Et vous allez maintenant découvrir le dernier prototype, le modèle anti-gaspi. Efficacité immédiate, poids 200 grammes, consommation nulle. Formidable.
Chassons les gaspilles de chez nous.
L'objet de 200 grammes en question, hein, c'est un col en V, pas un col roulé.
Pas un col roulé.
Ça date de 1979, ça avait coûté 20 millions de francs de l'époque, hein, cette campagne de communication. La chasse aux gaspilles, on l'a entendu, hein, c'est plus clair, plus simple, c'est même dit avec humour, c'était peut-être plus efficace à l'époque, Louis Osalter.
Bah, j'espère qu'on ne va pas retomber effectivement dans l'infantilisation du Covid. Moi, c'est plus ça qui m'inquiète quand je vois les nouveaux slogans qu'on entend ici. Mais surtout, les deux angles morts, mais qui ont déjà été évoqués par mes camarades avant la publicité, il y a deux angles morts dans le fond du discours, c'est-à-dire au-delà de la campagne sur les éco-gestes, sur la sobriété, etc. Il y a déjà effectivement l'ambiguïté sur est-ce que la sobriété, c'est juste pour passer l'hiver et après on reprend comme avant, ou est-ce que c'est pour après. Alors le gouvernement, la ligne du gouvernement, on voit bien que c'est de dire que non, c'est vraiment un plan de long terme et que maintenant il faut changer les mentalités, mais rien dans l'ADN d'Emmanuel Macron ne porte à ça, rien du tout depuis le début. Il a montré, c'est son droit, hein. On peut ne pas être sensibilité du coup du tout à ces enjeux, ne pas se projeter, rester sur une vision très productiviste. Mais rien dans l'ADN d'Emmanuel Macron ne laisse penser qu'il est l'homme qui peut conduire à un changement durable des mentalités là-dessus. Et puis le deuxième angle mort, mais qui tend même vers la désinformation, c'est de présenter cette situation comme étant uniquement le facteur de cause exogène. Comme le disait Benjamin Morel, l'électricité en France est produite, je crois, à 6% à partir d'énergie fossile. Donc ce n'est pas parce que le gaz russe est plus cher, parce que le pétrole est plus cher, que nous avons de l'électricité plus chère, voire en pénurie. C'est effectivement parce qu'il n'y a pas eu d'anticipation sur la production d'électricité en France, qui se fait en France et pas en Russie. Donc si quasiment la moitié du parc nucléaire est à l'arrêt en ce moment alors que l'hiver approche, c'est à cause de décisions politiques et industrielles françaises. Si on n'a pas assez d'énergie pour le compenser par ailleurs par d'autres sources d'énergie, qu'elles soient renouvelables ou pas, c'est également à cause d'atermoiements sur le mix énergétique français. Bref, tout cela vient d'errance dans la décision politique sur la politique de l'énergie, quelque part dans la non-politique de l'énergie, parce que ce n'étaient même pas des choix, ce sont des non-choix. Et donc le discours du gouvernement qui tend à le présenter comme étant la faute de facteurs exogènes de la situation politique, géopolitique, de la guerre en Ukraine, de Vladimir Poutine, il faut rappeler sans arrêt, à chaque fois que ça nous est présenté de cette façon-là, que non, ce n'est pas à cause de Vladimir Poutine, en tout cas pour cette partie-là, c'est à cause d'errance politique française.
Émilie Zapalski, il y va un peu fort, Louis Zoltan, de la désinformation. De la désinformation, enfin.
Non, mais alors, moi, je vais en rajouter une couche, parce que, au-delà de la désinformation, alors, j'irai peut-être pas sur la désinformation, mais c'est une façon de dire les choses, c'est de la communication pour essayer, de présenter les choses de la manière la plus objective, enfin, la plus positive possible. En tout cas, la moins responsable sur les fautes du gouvernement. Il y a aussi un espèce de... Il me semble que ça s'approche du déni parce que il y a une situation. Là, on parle de la communication vis-à-vis des particuliers. Bon, il y a aussi la partie sur les collectivités et les entreprises. Rien d'obligatoire. On est un peu dans un monde. Ça va aller si on s'y met tous ensemble ou quoi. Il y a quand même une situation sur le terrain qui est très très difficile et notamment, on en a parlé pour nos industries, nos entreprises, les factures énergétiques qui augmentent, qui doublent, qui triplent. Quand ça devient des millions d'euros, ça devient très compliqué. Et en cascade, si ces entreprises ont des difficultés, c'est toute une chaîne qui va prendre jusqu'au service, en fait, si vous voulez. Il y a les sous-traitants, et puis après, on arrive au bout du bout de la chaîne. Et j'ai l'impression que le gouvernement, pour l'instant, est dans une sorte de déni en disant, finalement, pour l'instant, ce qu'on entend à Bercy, c'est 300 entreprises qui sont en difficulté, alors qu'on a des échos beaucoup plus larges de ces entreprises. Donc, il y a deux mondes, si vous voulez, et c'est pour ça que la communication me paraît un petit peu angélique par ça. On n'est pas chez les bisounours, mais pas loin, c'est-à-dire si vous éteignez un petit peu votre chauffage, on va y arriver, alors qu'il y a des entreprises qui sont déjà en train d'arrêter leur production par moment. Je pense aux verriers qui ont déjà alerté l'État, la métallurgie, la sidérurgie, Duralex. Donc c'est deux mondes qui se confrontent et voilà, il y a un moment où ça va exploser et ça risque d'être très difficile. Peut-être que l'État ne veut pas faire comme pendant le Covid, quoi qu'il en coûte infini. Mais il y a un moment, il faudra bien être face à cette situation.
Sans oublier l'agriculture, on l'a entendu pendant le journal, hein, il demande à ce que le tarif arène soit le même en 2023 qu'en 2022, sinon ça pourrait représenter une augmentation dans nos assiettes de plus de 15%. C'est aussi un problème européen, Benjamin Morel.
C'est un gros problème européen en réalité.
Il faut rappeler que le prix du gaz et de l'électricité sont...
Exactement, le marché européen de l'électricité, d'ailleurs,
sont indexés, voilà.
Certains pays sont sortis, hein. Des pays fondamentalement eurosceptiques, des pays brexitiers, des pays qui sont aujourd'hui l'Espagne et le Portugal, et qui du coup ont une situation en matière d'énergie avec un prix de l'énergie qui est bien moindre. Tout bêtement parce que coller le prix de l'électricité quand vous êtes sur une production à base nucléaire sur le gaz, ça n'a pas de sens en réalité. C'est un mécanisme juridique qui vise à harmoniser un marché qui aujourd'hui, au vu de ce mécanisme-là, est fondamentalement dysfonctionnel. De même, on pourrait y passer des heures, mais la manière dont on a décomposé notre marché de l'électricité à travers un producteur qui est EDF, et puis ensuite une répartition à travers des entreprises qui n'ont qu'un but, en fait, c'est un but commercial, d'acheter moins cher l'électricité à EDF pour le revendre plus cher aux particuliers, tout ça n'a pas réellement de sens. On a considéré l'énergie comme c'était un marché. Or, en réalité, l'énergie, ce n'est pas d'abord un marché. L'énergie, c'est ce qui fonde un marché. Toutes les grandes révolutions industrielles se sont fondées sur une source d'énergie. Si jamais vous perdez le contrôle de votre source d'énergie, c'est toute l'économie qui en est dépendante. Vous parliez tout à l'heure des prix de l'agriculture. Qu'est-ce qu'il y a dans le prix de votre yaourt ? Dans le prix de votre yaourt, il y a certes le lait, il y a certes le travail du fermier, mais il y a le transport, il y a la machine. La machine, le transport, ça fonctionne à quoi ? Ça fonctionne grâce à de l'énergie. Si jamais vous avez un prix de l'énergie qui augmente, c'est l'ensemble de la chaîne des prix qui augmente. Ça augmente pour le consommateur et du coup, vous êtes également moins compétitif parce que plus votre énergie est chère, eh bien, plus vous produisez des produits chers que vous allez avoir du mal à vendre à l'étranger. Fondamentalement, en ayant aujourd'hui une politique erratique en matière énergétique, on l'a déjà dit, et une politique européenne totalement absurde, calée sur les intérêts de l'Allemagne, qui, elle, défend bien ses intérêts. Vous avez sans doute suivi l'investissement de l'Allemagne en matière, exactement, qui va lui permettre...
Qui a fait grincer quelques dents en Europe,
tantiner.
À part celle de l'Espagne, tiens, bizarrement.
Parce que, je veux dire, on est un peu là-dessus les enfants sages, les dindons de la farce européenne. C'est-à-dire qu'on a une vision extrêmement altruiste. Emmanuel Macron a une vision extrêmement angélique de l'Union européenne, mais les Allemands défendent leurs intérêts. Et demain, si l'industrie française est sabordée, fragilisée encore un peu plus par cette politique énergétique et cette situation, alors que l'industrie allemande, qui normalement devrait être la première victime de cette situation, s'en sort plutôt bien parce que l'État abonde derrière, eh bien, comment nos entreprises françaises vont rester compétitives ? Donc derrière, vous voyez, il y a des enjeux politiques, d'équilibre demain en Europe, d'équilibre géopolitique, d'équilibre économique. Ce n'est pas simplement une question de solidarité européenne. Et ce débat-là également, eh bien, nous devrions l'avoir, mais nous ne l'avons pas.
Voilà ce qu'on pouvait dire de ce plan de sobriété énergétique dont on devra mesurer les effets au fil que l'hiver passera. S'il est très froid, il risque quand même d'y avoir des coupures. On change de sujet juste après une courte pause. le Front National fêtait ses 50 ans d'existence hier. C'est fêté aujourd'hui par Marine Le Pen, qui n'a évidemment pas invité son père, le fondateur, Jean-Marie. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
De retour sur Europe 1, nous sommes avec Louis Osalter, journaliste à Marianne. Marianne qui fait sa une cette semaine sur les retraites, ce qu'ils ne disent pas. Voilà, je vous en dis pas plus. Nous sommes également avec la communicante Émilie Zapalski et l'universitaire Benjamin Morel. Nous restons dans les années 70. Nous évoquions avant la pause la campagne de sensibilisation à la sobriété énergétique. Déjà en 1979, la chasse au gaspillage. Nous restons dans les années 70 sur un tout autre sujet. Revenons au 5 octobre 1972, création du Front National par Jean-Marie Le Pen. Voilà 50 ans que le parti existe. À la présidentielle 1974, le candidat Jean-Marie Le Pen faisait 0,75% des voix. Marine Le Pen, à la dernière élection suprême, a recueilli 41,45% des voix au second tour. Elle a aussi fait rentrer 89 députés à l'Assemblée, aux législatives qui ont suivi. C'est d'ailleurs à côté du Palais Bourbon que le devenu Rassemblement National fête son demi-siècle d'existence ce soir. Sans le fondateur, Jean-Marie Le Pen, exclu depuis 2018. Les nouveaux élus RN tiennent d'ailleurs à cette rupture. Écoutons Kevin Mauvieux, il est élu RN du Nord.
Jean-Marie Le Pen avait une façon d'agir d'une époque, c'est plus la nôtre, ça a évolué. Maintenant, c'est de nouvelles têtes qui représentent le Rassemblement National et j'en fais partie. Voilà, on s'est adapté avec la société. Effectivement, je pense que Jean-Marie Le Pen, c'est le passé. Mais il a été utile en pointant du doigt les phénomènes de société.
Alors, la meilleure décision du Front National a-t-elle été de tuer le père fondateur?
C'est intéressant parce qu'il dit nouvelle tête. Hein. Il ne dit pas les fondamentaux, il ne dit pas les axes. D'ailleurs, à la fin, il termine en disant finalement, il a pointé du doigt des choses qui ne fonctionnaient pas dans la société. Donc, ça veut bien dire que le Front National, le Rassemblement National, même s'il a changé sur certains aspects, et notamment en coupant la tête de Jean-Marie Le Pen, il n'a pas changé fondamentalement sur le fond. Moi, je pense que oui, c'est un travail... assez réussi, hein, ce qui s'est passé sur le Rassemblement National, et vous avez rappelé les résultats, le résultat à l'élection présidentielle et puis les 89 députés qui à l'Assemblée nationale. On a eu une phase de dédiabolisation, on a eu une phase de normalisation, et on a eu cette phase d'institutionnalisation où on se retrouve avec des députés qui sont à l'Assemblée, qui participent aux discussions, qui parfois amendent ou en tout cas vont dans le sens des projets du gouvernement. On le voit là à l'heure actuelle, d'autant plus que cette opposition-là a décidé d'être plutôt constructive, c'est-à-dire sage, bien habillée, bien lissée, pour se montrer très très sérieuse. Et au-delà de ces députés, on l'a dit et répété, c'est vrai qu'il y a des assistants parlementaires, il y a tout un, j'allais dire, des professionnels qui commencent à avancer sur ce sujet-là. Moi, je pense que c'est une transformation énorme, et ce qui me scotche, c'est que on n'arrive plus tellement à les appeler partis d'extrême droite, justement, avec tout ce travail qui a été fait.
De moins en moins. C'est un Français sur deux maintenant qu'ils considèrent comme un parti.
Menace
pour la démocratie.
Ils deviennent un parti populiste nationaliste, alors qu'ils ont gardé, par exemple, la flamme tricolore qu'on voyait en Italie et qu'on revoit arriver avec la victoire de Giorgia Meloni, qui subit la même chose, c'est-à-dire que Giorgia Meloni en Italie, on ne dit plus qu'elle est d'extrême droite, on dit qu'elle est populiste, souverainiste, nationaliste. Donc je trouve qu'il y a un glissement qui est quand même assez important. Et dernière chose, c'est aussi, je pense, que Marine Le Pen, elle a terminé un petit peu cette transformation en misant sur le pouvoir d'achat dès la campagne de la présidentielle. On a l'impression qu'elle va s'y remettre puisque là, elle critique fortement les sanctions qu'on donne à la Russie qui retombent sur le pouvoir d'achat des Français, quelque part. Mmh. Et j'ai l'impression que cette espèce de volet gauchisant, on va dire, de Marine Le Pen lui réussit beaucoup. Ça lui a beaucoup réussi à la présidentielle. Et la NUPES ou les partis de gauche qui sont représentés à l'Assemblée nationale ont peut-être presque un peu moins de voix sur ces sujets-là.
Une ligne plus sociale, hein, portée plus sociale. Par Marine Le Pen. En préparant cette émission, je revoyais la campagne présidentielle de 2007. C'est vrai, Benjamin Morel, que le père de Marine, Jean-Marie, lui, était beaucoup plus libéral.
Oui, c'était un autre logiciel. C'était un logiciel qui était plus originel d'une forme de droite de la droite. classique issu du maurrassisme.
C'est ça la vraie différence entre le RN et le FN ?
Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs différences. Il y a eu un mouvement de dédiabolisation, vous ne voyez plus forcément de nazillons, etc. Regardez les défilés en l'honneur de Jeanne d'Arc, etc. Les drapeaux issus de la droite maurassienne, etc.
Du rapport crématoire, le détail.
Exactement. Alors il y a eu un changement de leadership, ça c'est évident. Et puis il y a eu également une purge un petit peu des cadres les plus problématiques. Et ensuite, il y a en effet un discours social. Quand vous regardez aujourd'hui les enquêtes, on dit beaucoup la France est très à droite. Sur les sujets régaliens, c'est vrai. Mais sur les sujets économiques, je vous renvoie à certaines enquêtes que je cite assez souvent, enquête IFOP de mai 2021 pour l'Humanité, sur les sujets économiques, la France est très à gauche. Et en réalité, la réussite de Marine Le Pen, c'est d'avoir un discours plutôt à gauche sur les sujets économiques, il faudrait regarder de plus près, mais malgré tout, il est perçu comme tel, et plutôt à droite, voire très à droite, sur les sujets régaliens. Et là, vous avez en effet un combo gagnant, notamment dans les partis populaires. Parce que c'est bien beau de dire, c'est l'héritier du Front National. C'est vrai. Mais le Parti populaire en Espagne, c'est l'hérité du franquisme. Ça ne l'a pas empêché d'être au pouvoir. C'est-à-dire que l'électorat a la mémoire courte et il a une capacité à considérer les aggiornamento. Quand on parle d'extrême droite, qu'est-ce que ça veut dire ? L'extrême droite, c'est un terme positionnel. Vous êtes le parti le plus à droite sur l'espace politique. Aujourd'hui, par rapport au Rassemblement national, il y a plus à droite. Vous avez notamment Reconquête, etc. Ce qui, par définition, mécaniquement, ressente le RN. Ensuite, vous avez des traditions de la droite réactionnaire, si vous voulez. Vous avez la tradition fasciste. Le fascisme, c'est un mouvement révolutionnaire, nationaliste, qui naît des ligues des années 30. Le RN n'est pas un parti fasciste. Au risque de choquer, ce n'est pas un parti qui a dans son ADN aujourd'hui le fascisme, même s'il a pu avoir des groupuscules fascistes dedans. Ensuite, vous avez la tradition maurassienne, réactionnaire, retour à la France, qui est la France, le pays réel, etc. Le RN, aujourd'hui, dispose de France réactionnaire maurassienne, mais elles sont très limitées, ce n'est pas le logiciel de Marine Le Pen. Le logiciel de Marine Le Pen, c'est celui d'une droite qui aujourd'hui est une droite qui en effet a des succès en Europe, qui est une droite plus populiste. En réalité, qui est une droite extrêmement, opportuniste, qui sait justement jongler sur les thématiques qui sont les thématiques du moment, et qui vise en réalité à redonner le pouvoir à travers le sentiment qu'un chef sera toujours plus efficace qu'une assemblée qui délibère au peuple via un chef qui lui ressemble. Et ça, c'est un logiciel, en termes de représentation, extrêmement efficace, qui plus est, lorsqu'il est appuyé sur une colère sociale d'un côté et un logiciel un peu attrape-tout, peut permettre, en effet, de manière conjoncturelle, d'avoir des majorités électorales. Aujourd'hui, le RN, c'est beaucoup plus ça, beaucoup plus qu'un retour à une forme classique d'extrême droite française.
Lui, aux haltères, le Front National, devenu Rassemblement National, plus largement le clan Le Pen, c'est un sujet que vous connaissez bien. Je renvoie nos auditeurs à votre biographie de Marion Maréchal, que vous qualifiez de fantasme de la droite, si je me souviens
tout
bien.
Tout à fait, ouais.
Marine Le Pen, si on lit la presse du jour, c'est la hantise de la Macronie actuellement au pouvoir, c'est qu'elle prenne justement la succession d'Emmanuel Macron en 2027. On a le sentiment effectivement qu'elle est maintenant toute proche d'accéder au pouvoir.
Oui, pour les raisons que déroulait Benjamin Morel, c'est-à-dire qu'elle se positionne en fait comme comme une forme moderne de parti populaire. Populaire au sens où elle dispose désormais d'une rente électorale automatique dans l'électorat populaire. Une grande partie de cet électorat, à chaque élection, soit ne va pas voter, soit va voter pour Marine Le Pen. De manière automatique, simplement en signe de contestation. Après, ce qu'elle doit gérer là, dans les 5 ans qui viennent, c'est cette phase d'institutionnalisation. C'est-à-dire, est-ce que les gens votent pour elle parce qu'elle est contestataire et que finalement, elle a acquis ce statut qui consiste à être anti-système, que du coup, elle perdrait au fur et à mesure de cette institutionnalisation. Donc Marine Le Pen veut le pouvoir, contrairement à son père, quelque part. La question, c'est est-ce qu'elle perdra des électeurs en assumant complètement ce fait qu'elle veuille prendre le pouvoir au risque de lisser son programme comme elle l'a fait en 2022, sachant que ça, c'est complètement sa démarche. Moi, après, si vous voulez, je suis pas d'accord avec... je lis souvent des discours, des articles expliquant... c'est des analyses souvent paresseuses disant que le RN, en fait, n'a pas changé, que c'est toujours le même,
fasciste,
etc.
Voilà.
Et moi, je pense au contraire que le FN a fondamentalement changé depuis les années 70. N'oublions pas qu'il est bâti sur comme une union de groupuscules nationalistes complètement marginalisés à l'époque. Ça n'existe pas électoralement.
Il y a d'anciens proches de Jean Moulin, d'anciens SS autour de la table.
Il y a aussi les statuts sont déposés par un ancien SS et il y a plusieurs collaborateurs qui
confondent
le RN.
Et
d'ailleurs, à l'époque, ils vont chercher Jean-Marie Le Pen comme élément présentable du parti. C'est-à-dire que Jean-Marie Le Pen, on va le chercher pour quelque part dédiaboliser les mouvements nationalistes de l'époque, parce que c'est simplement un ancien député poujadiste qui a une grande gueule, qui s'exprime bien, et qui lui n'est pas marqué de l'infamie de la collaboration. Mais effectivement, ce qui le pousse en avant pour masquer, eux, leur propre turpitude. Ce sont des gens qui, souvent, avaient une sympathie pour le régime de Vichy et la collaboration. Mais si je dis que ça a fondamentalement changé, c'est parce qu'à l'époque, le Front National, son principal objectif, c'est de lutter contre l'impérialisme communiste. Je reprends les termes tels qu'ils étaient. Oui, et on ne parlait pas d'immigration. C'était un sujet qui était inexistant dans le débat public. Par ailleurs, c'était un parti atlantiste, au sens où il se rattachait donc au monde libre, entre guillemets, pour lutter contre l'Empire soviétique, et que c'est une ligne qu'a conservé Jean-Marie Le Pen quasiment pendant toute sa vie
qui
politique.
Qui a été reçu par
même
le président
si sur la
américain.
Fin, il est allé vers un peu plus de distance vis-à-vis des États-Unis. Son modèle, c'était Reagan. Donc voilà. Donc, et Marine Le Pen ne dirait pas la même chose aujourd'hui, notamment en raison de sa ligne sociale. Donc moi, je pense que le RN a complètement changé, que ce soit sur la forme avec tous les ripolinages jusqu'au changement de nom, qui est quand même le parachèvement de la tentative de tourner la page de l'époque Jean-Marie Le Pen, mais aussi sur le fond, et qu'effectivement maintenant, il tient une ligne qui est semblable à celle de beaucoup de grands partis de droite qui existent dans d'autres pays européens, avec cette limite qui est son électorat. Pour l'instant, son électorat n'est quasiment que populaire, classe moyenne et populaire, France du travail, France des catégories populaires, ruralité, et il lui manque en fait cette frange de la bourgeoisie qui fait dans tous les cas une majorité électorale et sans laquelle vous ne gagnez pas l'élection présidentielle. Parce que le nom Le Pen est encore là. Il y a encore, non seulement il y a la ligne qui déplaît souverainement à toute une partie de la bourgeoisie parce qu'elle est plus portée sur les préoccupations sociales que sur un libéralisme tel que pouvait le développer d'ailleurs Jean-Marie Le Pen. Et puis il y a toujours le nom Le Pen qui est quelque part le dernier avatar que celui-là, Marine Le Pen, ne pourra pas enlever par définition.
Le nom Le Pen.
Ah bah oui, oui, je pense que ça, il s'en détache. Et d'ailleurs, le premier représentant, c'est Jordan Bardella. En plus, lui, jeune, né ou ayant vécu en Seine-Saint-Denis. Et c'est le premier, c'est étonnant, parce que c'est le premier aussi qui affirme, enfin qui assume le grand remplacement, comme Éric Zemmour. Non, je voulais simplement rajouter à ce que vous disiez, Louis, que les bourgeois, bah, c'était un peu Éric Zemmour qui avait compris, peut-être, probablement, que c'était... Voilà, et lui, à l'inverse, il n'arrivait pas à avoir la catégorie populaire. Mais moi, je pense que, en effet, ça a beaucoup évolué, mais moi je pense qu'il y a ses racines toujours de la même direction. Alors vous disiez en effet qu'ils étaient moins axés sur l'immigration, mais en tout cas qui relève de cette extrême droite de trouver un coupable et de lui faire la peau parce que on reste les Français en France et l'argent des Français, l'argent de la France aux Français. C'était d'ailleurs les affiches de Marine Le Pen sur le sujet. Donc on est toujours avec un parti d'extrême droite. En fait, moi ce qui me gêne, c'est ça, c'est qu'on est en train de glisser sur un parti populiste nationaliste et c'est tout quoi. Et je pense que c'est une erreur et que ça peut si un jour ce parti était au pouvoir, je pense qu'on aurait des surprises assez flagrantes.
Voilà, le RN a rompu avec ses racines historiques. À gauche, c'est pas vraiment le cas. Jean-Luc Mélenchon, il semble renouer, lui, avec l'esprit révolutionnaire français. Je vous lis son tweet, l'un de ses tweets aujourd'hui. Les 5 et 6 octobre 1789, les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère. Elles ramènent le roi de force à Paris sous contrôle populaire. Faites mieux le 16 octobre. Vous savez que la France Insoumise appelle à marcher contre la vie chère. Merci Benjamin Morel, merci Louis Azalter, merci Émilie Zapalski d'avoir participé à ce nouveau numéro d'Europe Soir. Demain, vous retrouverez Pierre de Villeneuve. Je serai là, moi, pour vous informer dès 20h. Bonne soirée à toutes et à tous sur Europe 1. On se retrouve dans quelques instants pour faire coucou à nos amis des sports. À tout de suite.
Europe Soir, 19h, 20h.
Raphaël Delvolvé.